Radio Okapi.
Babel Pongo Massimango pour le journal.
Bonjour, à la une, le début ce jeudi de la visite de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Michelle Bachelet, qui a entamé sa visite à Bunia, a eu des entretiens avec le ministre des droits humains ainsi que le comité provincial de sécurité. Ici à Kinshasa, la DGRK a lancé depuis hier le recouvrement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif pour 2020. Le tout premier à l'avoir payé hier est le gouverneur de la ville. Chantini Ngobila appelle à cette occasion les Kinois concernés à suivre son exemple pour permettre de développer la ville. Le recteur de l'Université pédagogique nationale de Kananga, UPKan, est notre invité. Cette institution est en train de finaliser le processus d'ouverture d'une école doctorale. Les avantages de ce statut et les défis qui restent à relever pour y parvenir, nous en parlons avec lui dans ce journal. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est arrivée ce matin à Bunia. Michelle Bachelet a échangé notamment avec le ministre des droits humains et les membres du comité provincial de sécurité. À cette occasion, le gouverneur intérimaire de cette province a adressé la situation sécuritaire qui est selon lui la cause de graves violations de droits de l'homme dans cette province. Ces rencontres se sont déroulées juste après l'arrivée de la haute commissaire à Bunia. Isaac Meopé.
Le gouverneur intérimaire a remercié la haute commissaire pour son attention soutenue pour la province de l'Ituri qui traverse une crise depuis 2017, particulièrement en territoire de Djougou. Ibrahim Oudjer Tianboulé a relevé des violations des droits de l'homme par des miliciens du groupe armé Codeco. Il affirme que des efforts sont fournis par le gouvernement de la RDC pour mettre fin à ces violences à travers les forces de l'ordre. Il a ajouté que dans le cadre de la justice, plusieurs assaillants ont été arrêtés et condamnés par les tribunaux militaires. Cependant, il a déclaré que les défis restent énorme. Il a demandé à son hôte de soutenir les efforts du gouvernement central et provincial. C'est notamment à travers l'appui aux institutions judiciaires en RDC. De son côté, le ministre national des droits humains a rachéri en disant que la RDC est membre des Nations Unies et a besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Bunia, Isaac Remoyo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le calme est revenu depuis la nuit dernière à Moussienene, une localité située environ 20 km au sud de Butembo, donc sur la route menant vers Goma. C'est après une incursion des Maïmaï hier après-midi qui a coûté la vie à un élément de la police nationale. L'administrateur du territoire de Lubero indique que la population a commencé à vaquer à ses occupations depuis ce matin. Richard Nimbo explique la situation. Il a été joint au téléphone par Sadiq Aboubakar.
La situation actuellement à Moussienene est calme. Sauf que hier après-midi, il y avait un groupe de Maïmaï qui ont fait une incursion au marché de Katolo. Ils ont poignardé un policier qui est décédé sur place et emporté son arme. Ce qui est vrai, chaque mercredi, c'est la journée du marché au niveau de Moussienene. Or, il y a déjà un couloir de mouvement des inciviques qui quittent souvent Mounoli et même Makoko aux environs de Moussienene. Comme ce sont des enfants de la cité, ils ont été informés de la présence du policier qui était seul au marché. Dans cette situation-là, ils vont en profiter pour poser l'acte que nous sommes en train de déplorer. Nos FRDC informés de cette situation, ils ont procédé par des tirs de sommation en cherchant la position de l'ennemi, mais ils ont pris la fuite. Effectivement, après cette psychose, le chef de chefferie a essayé un peu d'échanger avec la population. Pour le moment, toute la population de Moussienene a regagné les milieux respectifs et chacun va évidemment à ses occupations.
Au sud Kivu, une journée ville morte est observée aujourd'hui à Uvira Centre. La plupart d'activités ainsi que la circulation tournent au ralenti au centre-ville d'Uvira. Le mot d'ordre a été lancé par la nouvelle société civile congolaise et l'appel à la population à contester ainsi le projet de balkanisation du pays et de soutenir le chef de l'État contre la partition de la RDC. Le maire de la ville et d'autres structures citoyennes locales ont cependant boycotté ce mot d'ordre et appelé la population à vaquer à ses occupations. Des éléments de la police et des FARDC ont été déployés dans la ville pour disperser tout attroupement des jeunes qui bloqueraient la route. Pour l'instant, aucun incident majeur n'a été enregistré. Vous habitez Kinshasa et vous êtes propriétaire de terrains, de parcelles ou d'immeubles résidentiels. Préparez-vous à payer désormais l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, a lancé hier le recouvrement 2020 de ces deux impôts. Pour l'instant, un bureau est aménagé à la gare centrale dans la commune Lagombe pour effectuer les paiements. Le tout premier à avoir payé cet impôt est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il n'est pas courant de l'entendre sur nos antennes. Je vous propose de suivre le gouverneur Chantini Ngobila, qui lance ici ce message à ses administrés. Il est au micro de Daniel Tambinzoni.
Je recommande à toutes les Quinoises et à tous les Quinois de bien s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Moi-même, je viens donc de payer mes impôts. Comme vous le savez, l'impôt, c'est une première source de recettes pour la ville et aussi un facteur de développement socio-économique pour notre ville. Sans l'impôt, on ne pourra jamais reconstruire cette ville. Notre régie des recettes, des gérants en sigle, est bien outillée. Elle a à la tête une dame de fer. On appelle Madame Rita Bola. Elle a déjà fait ses preuves par le passé dans la province que nous avons dirigée, Maïndombe. Et ici, depuis qu'elle est là, elle est en train donc de faire cette prouesse. Les recettes vont en augmentant donc de façon crescendo. Nous sommes en train d'évoluer. Malgré que nous avons trouvé une situation assez chaotique au niveau de la ville. Ça, il faut que les gens le sachent. La ville est jusque-là mise à l'index. Nous ne pouvons pas prendre un crédit. Nous ne pouvons pas faire des transactions bancaires non plus. Mais nous sommes en train de nous débrouiller pour satisfaire d'abord nos travailleurs qui sont payés régulièrement.
Au Kasaï oriental, la famille régnant sous la chefferie de Bakwa Kalonji, dans les territoires de Chilenge, peut désormais récupérer la gestion de cette entité administrative selon les dispositions coutumières. Un arrêt rendu en novembre dernier par la Cour d'État réhabilite le prince héritier Mao Kabengele Kabua Mutombo Kachi Ier comme grand chef de la chefferie. Ce pouvoir coutumier avait été attribué depuis 2012 à Ladislas Kadima Kabengele Kanguvu, élu par les représentants des tribus de la chefferie, une élection qui avait été jugée illégale pour non-respect de dispositions coutumières. Explication, Esther Dalafina.
Prince héritier Mao Kabengele Kabwaka Katenda Wamutombo Kachi I est le nouveau grand chef de la chefferie de Bakwa Kalonji dans le territoire de Chilenge. La Cour d'État le réhabilite après un procès contre la République démocratique du Congo accusé pour violation des articles 67, 74 et 80 de la loi organique du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Pour la petite histoire, après le décès en 2010 du grand chef Kabengele Dibwe Mutombo Kachi V de la chefferie de Bakwa Kalonji, sa famille régnante n'avait jamais été contactée pour la désignation de son remplaçant. Les anciennes autorités ont organisé 6 mois après une élection regroupant 38 chefs de groupement, élection qui a porté Kalalawa Mwela non éligible au pouvoir. Il sera remplacé 2 ans plus tard par Ladislas Kadima Kabengele Kanguvu, élu par les représentants des tribus de la chefferie. Après analyse de toutes ces irrégularités, la Cour d'État vient de réhabiliter la famille régnante. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Parlons à présent des suites de la perturbation de la fourniture d'Internet observée récemment dans la partie ouest de la RDC. La RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a réuni tous les responsables des compagnies de téléphones cellulaires œuvrant dans le pays. C'était hier. L'objectif d'après Odon Kassindi, son président, était d'encadrer les opérateurs pour qu'il n'y ait pas de dérapage sur les prix d'Internet afin de sécuriser les consommateurs. Il s'agissait aussi de voir ensemble comment revoir la connexion de la RDC vers d'autres stations, plusieurs autres stations d'atterrage pour offrir des alternatives de connexion aux utilisateurs en cas de panne similaire à l'avenir. Je vous propose d'écouter Odon Kassindi au micro de Jacques-Yves Moulima.
C'était d'abord de passer en revue toute la situation et de voir comment est-ce qu'on peut acheminer le trafic d'Internet de la partie ouest vers la partie sud, c'est-à-dire en passant par l'Angola et l'Afrique du Sud. À peu près 40 à 50% des trafics s'acheminent vers cette partie sud aussi de l'Afrique. Et aussi, nous avons tenu qu'on puisse prendre des mesures pour assurer la bonne concurrence. Parce que dans ce genre de situation, en tant que régulateur, il est toujours important d'encadrer qu'il y ait quand même la concurrence loyale entre les opérateurs et bien entendu protéger les consommateurs pour qu'il n'y ait pas la hausse des prix d'Internet. Alors, c'est très difficile d'avoir une idée sur la durée. Mais ces genres de pannes ou de coupures peuvent prendre 3 à 4 semaines pour que ça soit réparé. On y travaille. Il est important quand même de savoir que notre pays ne va pas se fier seulement à un seul câble ou à une seule station d'atterrage. Le pays est tellement vaste et pour qu'il y ait le boom du numérique dans ce pays, nous avons besoin d'avoir 2 à 3 stations d'atterrage. Donc, nous devons profiter de se connecter aux 2 autres câbles qui passent vers la côte ouest de notre pays.
Nous sommes en Congo central où des sites de vente de bilocos se multiplient à grande vitesse dans la ville de Matadi. Les bilocos, ce sont ces appareils électroménagers et divers articles de seconde main en bon état et parfois juste bons pour être jetés à la poubelle qui viennent de l'Occident dans des containers et sont commercialisés dans la ville de Matadi. Les avis sont partagés sur ce genre de commerce et même sur la qualité de produits vendus, comme nous l'explique ici Nana Pluriche Mambo.
La vente de ces articles de seconde main essentiellement composés des véhicules, des appareils électroménagers, des jouets, des habits et chaussures, des kits de fitness, d'ustensiles de cuisine et autres remonte des années 80. À l'époque, pour se procurer ces articles, il fallait obligatoirement se rendre aux alentours du port maritime de Matadi. Ce sont les Congolais établis en Europe qui revenaient vendre ces biens à un vil prix, ce qui n'est plus le cas de nos jours où l'on dénombre plusieurs sites de vente dans la ville de Matadi. Les véhicules déchargés de conteneurs sont parfois abandonnés sur la chaussée pendant 2 ou 3 jours, contribuant ainsi aux embouteillages, tandis que les articles sont étalés en désordre, rendant insalubre la ville. Les propriétaires des parcelles situées le long des axes routiers délogent parfois leurs locataires pour accueillir les vendeurs des bilocos qu'ils jugent beaucoup plus rentables, du fait que les loyers par jour pour cette catégorie de locataires coûtent $30. Faute de pouvoir payer un tel loyer, à Kinkanda dans la commune de Matadi, du rond-point RTNC à la place 24 novembre, ces articles sont étalés très souvent de manière désordonnée. D'après certains habitants de la ville, les bilocos séduisent plus ceux qui viennent de Kinshasa. À cela, il faut ajouter qu'à cause de la qualité douteuse de ces appareils électroménagers, les autochtones préfèrent acheter les articles neufs dans les magasins. Nana Pluriche Mambu, Matadi, Radio Okapi.
Nous passons à présent à la page internationale.
Actualité internationale.
Les 5 pays voisins de la Libye se sont retrouvés ce matin à Alger dans le cadre des efforts internationaux et visant à favoriser le règlement politique d'une crise qui menace la stabilité régionale. Cette rencontre à l'initiative de l'Algérie a débuté en milieu de matinée par une prise de parole de chacun des participants et se poursuit à huis clos. Elle réunit les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, de l'Égypte et du Tchad ainsi que les diplomates du Soudan et du Niger. Et est également présent le ministre allemand Heiko Maas qui doit informer les participants des résultats du sommet international de Berlin tenu dimanche, au cours duquel il a été promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures libyennes.
L'invité.
Le recteur de l'Université pédagogique nationale de Kananga, UPKAN, est notre invité. Son institution a reçu la semaine dernière une délégation de l'Université libre de Bruxelles. Leur discussion tournée autour de la formation des docteurs au sein de cette institution. L'UPKAN, avec son statut actuel, est en train de finaliser le processus d'ouverture d'une école doctorale, comme l'explique le professeur Moussa Nyoka dans cet entretien avec François Kadima.
Professeur Nyoka Mupangela, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez reçu dernièrement une délégation venue de la Belgique. Les discussions tournent autour de l'école doctorale. Où vous en êtes?
Nous sommes en partenariat avec les 2 universités belges, Université libre de Bruxelles et Université de Mons, depuis 2014. Les clauses de notre partenariat tournent autour de la formation des docteurs. Depuis 2014, avant l'avènement de Kamuina Nsapu, ces 2 universités nous envoyaient les professeurs qui venaient animer les séminaires en collaboration avec leurs collègues congolais, nos professeurs du Congo, de l'UPKAN, hier et ISP. Alors, ceux de nos chefs de travaux, dont les travaux de recherche étaient avancés, on les envoyait en Belgique pour aller finaliser la rédaction de leur thèse. On en a eu comme ça 6, dont 4 prestent ici et 2 prestent à Lodja, au Kasaï oriental. Mais avec le changement des statuts, c'est par rapport à ça, avec les amis belges, on s'est dit que les déplacements de nos doctorants leur coûtent cher. Comment est-ce que nous devons nous organiser pour pouvoir tout faire sur place? C'est comme ça qu'ils ont suggéré l'idée d'ouvrir une école doctorale qui va s'offrir à d'autres filières que celles que nous organisons initialement, traditionnellement. Et tout ça pour faire face à la carence de professeurs dans notre pays. Et comme nous avons un nouveau statut, une université, eh bien, peut organiser toutes sortes de formations pour faire face aux problèmes que rencontre le pays. Et c'est dans ce cadre-là que la délégation de professeurs belges est arrivé ici.
Est-ce qu'à ce niveau, nous pouvons dire que les choses sont avancées ou il y a encore quelques réglages à faire avant de voir cette formation de docteur ici à l'UPECAN être réellement mise en marche?
Non, mais l'UPECAN, d'ici 2-3 mois, il y aura ceux qui vont défendre leur première thèse de doctorat, ce qui a déjà commencé. Mais maintenant, avec le nouveau statut, comme il y a le texte qui a créé, qui a transformé, avec ça, il y en a qui vont soutenir leur thèse. Mais alors, avec la délégation qui est arrivée, ces deux universités sont disposées à mettre en disposition l'expertise étrangère internationale. Parce que dans la délégation, il y avait deux professeurs belges, mais un professeur, une dame, qui est roumaine et belge, parce qu'elle est professeure à l'université de Bucarest et en même temps à l'université libre de Bruxelles. Donc, ils vont nous aider à recruter les professeurs internationaux. Et nous allons aussi rechercher les professeurs du pays de Kassai, de la ville de Canada, pour voir un peu quelles sont les différentes formations doctorales, n'est-ce pas, que nous allons organiser. Le processus est déclenché parce qu'ils sont arrivés, je les avais amenés chez le ministre de l'ESU. Nous avons posé le problème. Notre gouvernement est très enchanté parce que ces gens-là acceptent que je puisse, ce que j'ai déjà fait, les recruter comme des professeurs avec le statut de nationaux. Donc, ils devront faire des navettes comme des nationaux, payés par le trésor public. Et comme ça, la formation des docteurs va être accélérée.
Parlons de cette école doctorale. Qui peuvent réellement être recrutés comme professeurs? Parce que là, vous faites appel aux professeurs qui viennent de l'extérieur.
Tout dépendra des filières que nous allons ouvrir. Et les critères sont connus pour animer les séminaires. Il faut être revêtu de grade d'au moins professeur. Hein, congolais, roumains, belges, français. C'est ces gens-là qui ont qualité à animer les cours au troisième cycle dans nos facultés comme à l'école doctorale. Et cette école va travailler en partenariat avec les facultés. C'est comme ça que fonctionnent les universités. C'est une sous-composante de l'université.
À l'heure actuelle, nous pouvons déjà être rassurés que l'UPECAN va avoir ceux qui ont fini, qui ont fait l'école doctorale et sortant de l'UPECAN.
Nous avons cherché à avoir le nouveau statut. C'est pour que le troisième cycle soit organisé de manière complète. Et le DEA et le doctorat. Ceux qui ont présenté, qui ont déjà le diplôme de DEA, bientôt ils vont présenter leur thèse de doctorat. Donc les premiers diplômes de docteurs qui vont sortir dans notre université, c'est d'ici 3-4 mois.
Professeur Nyoka Mupangila, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Professeur Mozart Nyoka, recteur de l'Université pédagogique nationale du Kananga, UPECAN. Voilà, c'est la fin de ce journal, supervisé par Axel Goncho, Richard Junior Kamunga, et mis en onde par Jean-Claude Jean-Noël Mokundu. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi.